Bonjour chers internautes, alors nous allons continuer notre série de commentaires qui illustrent, qui sont inspirés de la méthode d'interprétation qui est présentée sur ce site. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette méthode d'interprétation, je vous conseille d'aller voir les pages qui se situent dans Lire la Bible, dans l'espace biblique, et à la rubrique « Interprétation de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église ». Je rappelle que cette interprétation n'est pas la mienne, mais qu'elle s'inspire d'une tradition d'interprétation plus que bimillénaire, parce que les Juifs aussi déjà s'en servaient. Donc je n'ai fait que remettre au goût du jour les interprétations dites spirituelles, dont parle le catéchisme de l'Église catholique et le Concile Vatican II par ailleurs. Alors, nous allons nous pencher sur le texte de l'Exode, au chapitre 14, texte connu avec le passage de la mer Rouge, et nous allons, dans cet enregistrement, voir deux interprétations, et les deux suivantes seront vues dans un enregistrement différent. Donc, si vous voulez avoir l'interprétation complète de ce passage, sans les quatre interprétations dites traditionnelles, il faudra avoir les deux enregistrements. Donc il ne faudra pas oublier le suivant. Je vous rappelle aussi, vous pouvez imprimer, télécharger et imprimer, ou simplement imprimer à partir d'Internet, le texte que nous allons méditer. Alors n'éteignez pas votre enregistrement avant de m'entendre dire fin de l'enregistrement, parce que il y aura des temps de silence qui vous permettront d'assimiler ces commentaires et de les faire priants. Alors, la première chose que je vous propose, c'est de lire le texte, mais avant tout de prier l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à vraiment assimiler ce texte dans un esprit de prière. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous une intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste « Ouvre mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta loi. » Donc, voici ce texte. Alors, je vous rappelle que ce sont des enregistrements de commentaires qui sont mis à disposition sur le site, écrits. Donc, ces commentaires, je vais les lire. J'espère que ça ne se verra pas trop. Donc, le texte que nous allons commenter se situe au chapitre 14 du livre de l'Exode, versets 10 à 31. Il s'agit de la traduction liturgique, c'est-à-dire celle qui est lue à la messe. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent, et voyant les Égyptiens lancer leur poursuite, ils furent saisis d'un grand effroi, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte? C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi, ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. » Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange du Seigneur qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, il la mit en déroute. Ils faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux, contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur et mit sa foi dans le Seigneur et dans son guerrier et dans son serviteur Moïse. Alors ici, nous allons commencer par une analyse littérale qui est surtout basée sur le sens historique à la lumière des nouvelles méthodes qui ont été mises à jour depuis les années 70, c'est-à-dire la méthode historico-critique et la méthode rhétorique. Alors nous allons commencer par le sens historique, historico-critique et rhétorique, pour nous déchoquer, entre guillemets, avant d'aborder les sens spirituels et saisir ainsi toute la profondeur du récit biblique qui ainsi déborde jusqu'à nous, jusque dans notre façon de vivre. C'est ce que j'espère que ce texte va pouvoir vous éclairer et vous aider dans votre façon de vivre le quotidien. Mais tout d'abord, il faut nous déchoquer parce que j'ai remarqué beaucoup dans ma fréquentation de chrétiens, notamment de catholiques, qu'ils n'arrivent pas à saisir toute la nourriture qu'il y a dans un passage biblique, notamment dans l'Ancien Testament, parce qu'ils sont vite choqués et ils s'arrêtent là. Alors, je vais vous montrer par une analyse historique qu'il faut aller au-delà de la lettre. C'est d'ailleurs tout le sens de ces pages que je vous ai indiquées au début d'enregistrement, qui s'appellent l'interprétation de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église. Alors, la méthode historico-critique, brièvement, consiste à voir les différentes strates de composition et voir comment le texte s'est composé et comment la culture a influencé la rédaction. Et la méthode rhétorique nous montre les effets de style, les exagérations, etc., auxquels l'auteur a eu recours pour vraiment accentuer son récit, pour qu'il marque davantage ses auditeurs. Alors, commençons par la méthode historico-critique. Je fais remarquer aussi qu'il y a beaucoup de références bibliques qui sont données dans les textes écrits, dans les commentaires écrits, et que là, vous ne pourrez pas les avoir. Donc, je vous conseille vraiment d'imprimer ces commentaires écrits et de les étudier plus calmement plus tard. De même, je vais référer des fois aux versets du texte. Là, par contre, il serait vraiment très important que vous ayez le texte sous les yeux après l'avoir imprimé. Donc, commençons d'abord par la méthode historico-critique, historique, donc, petit a, à l'époque de l'Exode, contexte historique. Un certain nombre d'incertitudes subsistent quant aux localisations précises du passage dit de la mer Rouge, du parcours des Hébreux dans le désert, etc. Tous les lieux ne peuvent être identifiés avec précision. Ce que l'on sait, c'est que l'Égypte a eu fort affaire avec les Hyksos, peuple sémite semi-nomades qui avaient réussi à conquérir le nord de l'Égypte vers 1700 avant Jésus-Christ. Alors, en quelques petits renseignements sur les Hyksos, un peu plus avant. Donc les Hyksos, ça veut dire les rois bergers ou les princes du désert. Les Hyksos étaient un peuple au départ nomade, probablement sémite, venu d'Asie. Ils devinrent les maîtres de l'Égypte au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils fondèrent leur propre dynastie dans le delta du Nil, Basse-Égypte. Celle-ci, donc cette dynastie, dura jusqu'en 1580 avant Jésus-Christ. En fait, elle a couvert la période 1580-1567 avant Jésus-Christ. On leur attribue à ces Hyksos l'introduction de la métallurgie du bronze, ainsi que l'introduction de la roue et l'utilisation de chariots tirés par les chevaux. Bon, certains considèrent d'ailleurs que l'histoire de Joseph, que vous trouvez en Genèse 41 jusqu'à Genèse 50, le dernier des patriarches hébreux de la Genèse, s'intègre assez bien dans ce contexte de mélange d'éléments sémites et égyptiens. Donc maintenant revenons à notre analyse historico-critique du contexte historique. Donc je disais, ce que l'on sait, c'est que l'Égypte a eu fort affaire avec les Hyksos, peuple semi-nomade, qui avait réussi à conquérir le nord d'Égypte vers moins 1700. Cela recoupe assez bien le récit de Joseph et de ses frères. Il fallut plus d'un siècle aux Égyptiens pour reconquérir le nord à partir du sud, à la suite de quoi il y eut une reprise en main antisémite, entre guillemets, par les Égyptiens, ce qui expliquerait l'esclavage des Hébreux. Rappelons que le mot hébreu, en égyptien, abihu, veut simplement dire étranger. Cette reprise en main dura de moins 1550 à Ramsès II, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ici, il ne s'agit pas que des Hyksos, mais la reprise en main, disons, de tous les Sémites qui s'étaient établis en Égypte. Ça correspond aussi à la mise en esclavage des Hébreux, comme c'est expliqué au chapitre 1 du livre de l'Exode. Alors tout à l'heure, je disais les Hyksos, c'est pas leur dynastie qui a duré de, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, de moins 1780 à moins 1567, c'est à peu près la période de durée de la dynastie des Hyksos, donc qui a duré elle-même un siècle, mais qui s'est achevée entre moins 1580 et moins 1567. Voilà, il fallait que je clarifie quand même les choses. Maintenant, si l'on se penche sur le passage de la mer Rouge proprement dit, plusieurs théories s'affrontent pour expliquer ce miracle. D'abord, premièrement, la théorie minimaliste. Le nom en hébreu pour l'étendue de l'eau concerné par le miracle, n'est pas mer Rouge, mais mer des roseaux, ce qui pourrait bien se référer à une étendue d'eau douce, beaucoup plus modeste qu'une mer. On pense soit au lac Bardawi, ou le grand lac Amer. Il faudrait une carte qu'il y a téléchargeable sur le site. Le verset 21 sous-entend d'ailleurs qu'il fallut une action graduelle, une nuit, pour créer un passage à sec. Il s'agirait peut-être alors d'un passage à gué d'eau douce, peu profond, qui sous l'effet du vent s'assécha un peu plus, découvrant de la vase et de la boue, permettant à des gens à pied de traverser, mais pas à des chars, qui ne pouvaient que s'embourber, d'où la mort des Égyptiens, une fois que le fort vent d'Est cessa de souffler et donc d'assécher les eaux. Deuxième théorie, une théorie plus audacieuse, qui ces dernières années a gagné en crédibilité, est celle de l'éruption volcanique. Il y aurait eu, plus éloigné dans le temps, une éruption volcanique à Terra. Terra, île de Santorin, en fait. À l'époque de Amosis Ier, vers moins 1550. Ce qui situerait l'Exode, dont la date n'est pas sûre, beaucoup plus tôt dans le temps. Cette éruption, dont on a retrouvé des traces dans les fonds marins et les sédiments, a été d'une telle importance qu'elle a désorganisé la vie de la faune et de la flore sur des milliers de kilomètres, confèrent les plis d'Égypte. Les cendres expliqueraient également la colonne de nuée. Quant au raz de marée consécutif à une éruption volcanique se passant près de la mer, il expliquerait la mer qui se fend en deux et se reconstitue peu de temps après. Dans ce cas, l'étendue d'eau concernée pourrait bien être plus conséquente, tel le nord du golfe de Suez,
prolongeant la mer Rouge, entourant la péninsule arabique, elle-même étant le prolongement de l'océan Indien. En conclusion, il est difficile de savoir avec exactitude ce qui s'est passé. On ne peut ni localiser ni dater avec certitude les événements relatés dans ces récits. On ne peut que supposer des dates plausibles pour Moïse, l'Exode, la conquête de Canaan, etc., au vu des découvertes archéologiques entreprises. Et encore ne s'agit-il que de recoupements. Donc petit b, à l'époque de la rédaction, donc le contexte historique à l'époque de la rédaction et non plus à l'époque de l'histoire. Donc ici, nous allons pencher sur la méthode historico-critique plutôt sous un angle rhétorique. Le récit de l'Exode est ancien. On estime que le verset 20, du chapitre 15, avec le cantique dit de Myriam, est un des passages les plus anciens de la Bible, l'hébreu y étant dans sa forme primaire, dit paléo-hébreu. Ce verset a visiblement été magnifié par des ajouts plus tardifs, versets 1 à 18, qui vont jusqu'à parler de la Philistie et du pays de Canaan, faisant ainsi allusion à la conquête de la terre promise, qui devait intervenir par après. Qu'est-ce à dire ? En fait, le récit était remanié en fonction de l'époque des rédacteurs. Il a donc été magnifié selon le procédé bien connu de l'épopée, procédé utilisé également dans le livre des juges avec Samson et sa mâchoire d'âne tuant 1000 philistins, passage faisant, tout comme le passage à mer Rouge, l'objet d'un cantique épique. On voit ainsi clairement la genèse de ce procédé, allant du réalisme vers le spectaculaire épique, à l'œuvre au verset 21, où l'explication du miracle est moins grandiose, le vent d'est soufflant toute la nuit pour assécher les eaux. Ce passage est attribué au courant primitif, dit yaviste, plus proche des faits. Le miracle, dans sa version spectaculaire, avec les eaux formant une muraille au verset 22, est d'inspiration éloïste, voire sacerdotale, donc plus tardif. L'époque de l'époque sacerdotale est l'exil à Babylone, et le retour d'exil, 6e siècle avant Jésus-Christ, où l'unité nationale est à reconstruire. On comprend mieux l'insistance sur l'événement fondateur dans sa dimension spectaculaire, visant à cimenter un peuple qui, après l'exil, a tout à reconstruire, avec pour principale motivation la foi en son Dieu. Il faut aussi faire remarquer que ce procédé d'exagération, dit épique, explique l'accent mis sur les victimes égyptiennes et sur leur nombre probablement exagéré, toute une armée avec chars et cavaliers. Beaucoup moins ont dû périr, ce qui explique qu'aucun document égyptien ne fasse même allusion à cette catastrophe militaire. De plus, il n'était pas courant dans l'Antiquité de mentionner ces défaites. Je vous renvoie à la bataille de Kadesh où Hittites égyptiens revendiquent la victoire. Conclusion. Quoi qu'il en soit, que l'événement ait été magnifié, comme le cantique en Exode 15, verset 1-18 le montre, n'enlève rien au fait qu'il s'est passé quelque chose de suffisamment important pour être considéré par les Hébreux comme fondateur, et ce, quelle que soit l'explication rationnelle historique fournie. En fait, la meilleure preuve qu'un événement susceptible de marquer les esprits s'est effectivement passé se mesure à l'impact que cet événement a laissé dans l'histoire du peuple d'Israël. Ainsi, le passage de la mer Rouge ne cessera d'être rappelé dans toute la Bible comme l'événement par excellence de la présence libératrice du Dieu d'Israël. Pour qu'une telle conviction puisse prendre racine, il faut au départ un événement suffisamment marquant. Voici quelques passages bibliques qui ramènent à l'événement fondateur. Le psaume 78 au verset 13, le psaume 136, verset 13 à 15, Isaïe 63, verset 11 à 12, Zacharie chapitre 10, verset 11. Le livre d'Isaïe utilisera même l'image de l'Exode pour décrire le retour de l'exil à Babylone, montrant ainsi la réinterprétation qui eut cours à l'époque finale de la rédaction du livre de l'Exode, confère école sacerdotale. Donc voir Isaïe par exemple, chapitre 35, verset 8 à 9, et chapitre 43, verset 16 à 17. Voir également les autres mini-passages d'eau à pied sec dans la Bible, rappelant donc ainsi le miracle plus grand de la mer Rouge. Donc ces mini-passages d'eau, donc moins grandiose la mer Rouge, vous en trouverez un exemple en Josué chapitre 3 verset 17, au deuxième livre des Rois chapitre 2 verset 8 à 14. Il ne faut pas oublier non plus
l'impact le plus impressionnant laissé par cet événement fondateur du passage dit de la mer Rouge, la fête de la Pâque juive, encore célébrée aujourd'hui. Cette libération a tellement marqué l'esprit des Hébreux que Jésus la réinterprétera lui-même dans un sens spirituel, suivi en cela par l'Église, qui remplaça la Pâque par Pâques, notre fête de Pâques donc. Notons au passage que dans le récit de la Transfiguration, en Luc 9, chapitre 31, la marche de Jésus vers Jérusalem est qualifiée dans le texte grec original d'exodos, traduit par le mot départ ou marche dans la plupart des traductions françaises. Et enfin, quelques mots sur le sens littéral, indépendamment de sa composition historique, etc. Le sens, disons, de base du texte, c'est que Dieu est un Dieu libérateur, il est aux côtés de son peuple et est assez aimant et puissant pour le libérer. Dans ce processus de libération, Dieu détruit toute opposition à ce projet d'émancipation de son peuple. Donc là, nous terminons donc le sens littéral et l'analyse historique de ce texte. Ici, il n'est pas trop nécessaire de prier, de nous étendre là-dessus. Il faut simplement se dire que pour pouvoir vraiment plonger dans une vision du texte, d'interprétation qui va façonner notre vie quotidienne, notre spiritualité, il faut être conscient de ça, donc qu'il y a eu, si je résume, une exagération historique au départ sur le nombre de victimes. Donc ce Dieu n'est pas un Dieu cruel qui va tuer jusqu'aux les Égyptiens, déjà. Et puis, il faut insister donc sur ce Dieu libérateur, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc juste cette petite prière ensemble que nous allons faire à partir de cette toute dernière remarque du sens littéral. Seigneur, vraiment merci parce que tu es un Dieu libérateur et vraiment apprends-nous que dans nos vies aussi, tu es là pour nous libérer de nos exodes et nous faire traverser les mers de nos difficultés. Seigneur, augmentons-nous la foi en ta capacité à vraiment nous libérer jusque dans le plus quotidien de nos vies, jusque dans nos problèmes les plus intimes. Merci Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous à lire la Bible avec des yeux spirituels et d'abord à relativiser, ne pas tout prendre à la lettre. Et que ce qui est important, puisque on voit bien que le récit a été plus ou moins magnifié, ce n'est pas de se demander si c'est vrai, si tu as tué tout le monde ou pas, mais c'est de voir le sens derrière la lettre, le sens spirituel pour nos vies quotidiennes. Vraiment, Seigneur, forme-nous à cette vision, à cette façon de lire la Bible, pour qu'elle puisse devenir vraiment ce livre, ce guide, cette lampe dans notre vie, comme le dit le psaume 119. Amen. Je vous propose une relecture du texte avant de passer à la dernière analyse, interprétation ce soir. Enfin, je dis ce soir parce que j'enregistre en soirée, mais disons dans cet enregistrement. Donc là, l'interprétation allégorique. Je vais vous lire le texte et il y aura un petit temps de silence pour que vous puissiez vous-même le méditer. Donc, Exode 14, versets 10 à 31. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et voyant les Égyptiens lancer à leur poursuite, ils furent saisis d'un grand effroi et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Est-ce que l'Égypte manquait de tombeau pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service nous a rendu en nous faisant sortir d'Égypte? C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. » Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, ils pénétreront derrière eux, dans la mer, je triompherai pour ma gloire, de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire, de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange du Seigneur qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et va se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer, le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec, les eaux se fendirent. Et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ». Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ». Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place, dans leur fuite les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Donc maintenant, nous allons passer au sens allégorique. Donc c'est un des sens, c'est le premier sens spirituel généralement qu'on aborde. Ce sens allégorique, je le répète brièvement, mais si vous voulez une analyse plus fouillée, allez voir les pages dites du site Interprétation de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église, est centré sur des types, c'est-à-dire des choses qui nous rappellent le Christ, ou des figures qui nous rappellent certains actes fondateurs ou sacrements ou vérités du Nouveau Testament, comme vous allez le voir. Alors cette analyse, s'est développée donc dans les pages dont je viens de parler du site. Ce sens, disons allégorique, est utile parce qu'il nous montre que l'objet central de la Bible et donc de notre foi, c'est le Christ, et que c'est lui seul que nous devons vraiment, sur lequel nous devons fixer nos yeux dans toute notre spiritualité. Lui seul est le sauveur qui peut agir, etc. Comme vous allez le voir. Et entre parenthèses, c'est aussi important par rapport à tout ce qui est dialogue interreligieux. Le sang de notre foi, c'est le Christ, et on ne peut pas passer par-dessus. Alors voici les éléments de l'allégorie. Vous avez la mer Rouge, Moïse, le passage de la mer, les Égyptiens. Tout ça, ça peut nous rappeler le Jésus, le baptême, la grâce et la loi et le péché. Grâce et loi, donc la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et la grâce, le Nouveau Testament. Donc on va faire ce qu'on appelle justification allégorie, petit a. Jésus est comparé au nouveau Moïse dans le serment sur la montagne en Matthieu 5. Jésus se pose en nouveau législateur. Ce nouveau Moïse est déjà annoncé dans Deutéronome 18, verset 15. Petit b. Jésus en Jean 6, verset 31-33, puis au verset 58, oppose la nourriture de son enseignement et de son corps à la manne donnée à Moïse au désert. Il y en a un commentaire sur le site d'ailleurs, commentaire aussi audio. Petit c, notons aussi quelques points communs entre la vie de Jésus et de Moïse. Tous deux sont nés sous le règne d'un tyran et échappent à la mort étant bébé. Petit d, Moïse passe la mer Rouge, Jésus est baptisé dans le Jourdain. Petit e, Jésus parle au début de sa passion à la Sainte-Seine de passer de ce monde à son père, comme les Hébreux sont passés d'une rive à l'autre de la mer, confère Jean chapitre 13, verset 1. Petit f, les eaux obéissent à Jésus qui reproche à ses disciples d'avoir cédé à la panique, confère Marc chapitre 4, verset 45 à 41, tout comme Moïse demande aux Hébreux de ne pas craindre, mais bien plutôt de contempler l'action de Dieu. Donc voici des éléments d'interprétation. Cette interprétation allégorique, centrée sur le Christ et le Nouveau Testament, reprend bien sûr l'idée littérale de la libération. Ça aussi c'est important, tous les sens spirituels doivent d'abord s'enraciner dans le sens littéral pour éviter des interprétations farfelues trop éloignées du texte. Alors, première interprétation allégorique, Jésus libérateur du péché. Avec Jésus, le nouveau Moïse, la libération ou la Pâque se fait plus spirituelle et plus profonde. Ainsi, Jésus nous conduit à la libération de l'esclavage du péché, confère Matthieu 26, verset 28, où Jésus parle du pardon ou de la libération des péchés comme résultat de son sacrifice. Petit 2, la mer rouge comme préfiguration du baptême. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 2, compare le passage de la mer rouge avec le baptême. Pour lui, le passage de la mer rouge est comme le baptême en Moïse du peuple hébreu. En ce sens, Moïse est bien une figure de Jésus. Jésus qui, par le sacrement du baptême, nous sauve du péché originel. Cette idée du baptême comme signe de sa conversion et de son appartenance au Christ, produisant le salut, est développée par Paul dans les passages suivants, Romains 6, 3, 4 et Colossiens 2, 12. Le baptême est signe de notre mort et notre résurrection en Jésus-Christ. Le baptême est donc le signe de notre passage, notre Pâque, si vous préférez, de la mort à la vie. Dans le même ordre d'idées, le passage de la mer rouge, préfigurant la libération du Christ, manifestée par le baptême, trouve son aboutissement chez Paul dans le passage du régime de la loi, c'est-à-dire la pratique des commandements de l'Ancien Testament, nous ramenant toujours à notre incapacité à nous sauver par nous-mêmes, à celui de la grâce donnée gratuitement en Jésus. Confère Romains chapitre 8, versets 2 à 3, chapitre 10, verset 4, Galates 3, 23-26, Éphésiens 2, 5-9, et aussi Jean chapitre 1, verset 17. Donc ici, comme vous le voyez, Jésus nous propose une libération définitive. Là, nous avons une libération dans le temps, de l'esclavage, de l'Égypte à la terre promise. Jésus, lui, c'est l'esclavage du péché, l'esclavage de la mort. C'est donc quelque chose de bien plus profond, de bien plus spirituel. Et cette libération concerne tout le monde. Et le signe de cette libération, c'est le baptême. Le baptême, donc, qui doit être comme un signe du fait qu'on est effectivement libéré, donc, par Jésus, de ce péché, de tout ce qui nous rend malheureux en nous-mêmes, etc., et qui nous tient prisonniers de nos problèmes. On pourrait dire que le péché, c'est ça, entre autres. Eh bien, Jésus nous en libère, et le baptême doit en être, disons, comme le signe. Alors, j'espère que notre baptême est effectivement le signe de notre adhésion à Jésus-Christ, et du fait que nous pensons vraiment que lui seul peut nous libérer. C'est pour ça que je vous propose, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vraiment nous tourner vers le Christ et de lui demander de vraiment nous libérer. Et si vous l'avez déjà fait, et si vous êtes déjà tourné vers le Christ, de lui redemander, parce que c'est une libération qui prend toute une vie et qui parfois se prolonge pour certains au purgatoire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple, parce qu'il y a tellement de péchés tellement ancrés en nous, nos mauvaises habitudes, qu'il est bon régulièrement de demander la libération à Jésus de nos péchés. Oui Seigneur, vraiment merci de nous avoir libérés, et nous te demandons vraiment de nous libérer toujours plus de ce qui nous entrave, de ce qui nous rend malheureux, de ce qui fait que nous n'avons pas notre plein potentiel. Seigneur, libère aussi nos frères qui se tournent vers toi. Amen.
Alors, je vous propose une prière pour bien assimiler tout ce qui vient d'être dit. Prière que nous allons faire au Seigneur. Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire des autres prophéties, ouvre davantage nos sens à la vérité, et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré en toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Alors je vous renvoie au prochain enregistrement, où les interprétations seront beaucoup plus concrètes encore, notamment la interprétation dite morale. Je pense qu'elle vous sera très utile. Voilà, fin de l'enregistrement.